avant tout, je voudrais remercier la bibliothèque Marguerite Durand et Madame Dizier qui nous a fait envoyer ce magnifique panneau sur Julie Daubier. Il fait partie d'une exposition qui a eu lieu à la bibliothèque Marguerite Durand. Cette exposition présente un grand intérêt à tel point que maintenant elle est devenue itinérante. Alors ce soir, c'est Madame Agnès Tiercé qui prend la parole.
J'ai travaillé sur Julie-Victor Daubier sous la direction de Michel Perrault. J'avais fait une maîtrise d'histoire sur ce personnage donc. Je suis ravie d'être ici, d'autant plus je pense que c'est le lieu idéal pour la présenter puisque cette bibliothèque a été créée en 1861 et que 1861 c'est une date très importante aussi pour Julie-Victor Daubier puisque c'est la date à laquelle elle obtient son baccalauréat, donc date très importante pour elle et pour toutes les femmes. Et de plus, cette bibliothèque a été créée par un typographe, Jean-Baptiste Gérard. Et elle fut conçue comme un instrument de travail, d'émancipation intellectuelle et de promotion sociale, puisque bien sûr, au XIXe siècle, il y a tout un mouvement des personnes qui veulent s'émanciper socialement en faveur de l'instruction, à savoir que les ouvriers, les femmes, ont très bien compris qu'ils sortiront de leur position par l'instruction. Et Julie-Victor Daubier, bien sûr, participe à ce mouvement, et l'instruction est vraiment au premier plan de ses préoccupations. Sur Julie-Victor Daubier, la femme, j'ai pas grand-chose à vous dire, puisque sa vie privée reste un mystère. En fait, on sait qu'elle est née le 26 mars 1824, à Bain, dans les Vosges. Déjà, ça c'est une chose importante, puisque ça montre que ça contredit pas, disons, les statistiques du 19e siècle, puisqu'au 19e siècle, le quart nord-est de la France a une très grande importance dans l'instruction. On connaît Jules Ferry, bien sûr, et c'est une région qui a beaucoup participé au développement de l'instruction en France. Donc, on sait d'elle également que c'est la dernière des 8 enfants d'un caissier, donc elle est d'un milieu modeste. Elle est orpheline de père à 1 an. Elle fut préceptrice. Elle est restée célibataire toute sa vie et elle meurt en 1874. Donc, en fait, on sait assez peu de choses sur sa vie privée. Cependant, c'est certainement pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est son baccalauréat et ses écrits. Et en premier lieu, La femme pauvre au XIXe siècle, que vous avez sur la table, qui a été donc réédité par les éditions Côté Femmes. Alors, son baccalauréat. Alors, c'est la première donc à passer cet examen en France. Et on peut véritablement parler d'un exploit. Quand on voit la situation de l'enseignement féminin en France à cette époque-là. L'enseignement primaire féminin naît véritablement avec la loi Falloux en 1850. Toute commune de plus de 800 habitants crée une école pour les filles, donc. Alors que pour les garçons, depuis la loi Guizot de 1833, c'était une école pour chaque ville de 500 habitants. Donc on peut dire que c'est un progrès que cette loi. En revanche, il consacre le privilège de la lettre d'obédience. Le privilège de la lettre d'obédience, c'était vraiment une lettre d'une supérieure religieuse constatant qu'une personne, qu'une femme était apte à enseigner. Cette lettre seule permettait d'enseigner et elle dispensait du diplôme d'enseignement. Donc bien sûr, ça pose un problème énorme que ce privilège de l'aide d'obédience puisque l'enseignement qui est donné est d'un niveau assez médiocre puisque les compétences des enseignantes ne sont jamais vérifiées. Et Julie-Victor Daubier dénonce très très vigoureusement ce privilège dans son premier livre publié, qui s'appelle « Du progrès dans l'enseignement primaire, justice et liberté ». Il est paru en 1862. Et donc elle dénonce dans ce privilège de lettre d'obédience deux problèmes, à savoir ce que je viens de dire, à savoir que ça donne un enseignement d'un niveau médiocre. Et en plus, ça pose un problème pour les institutrices laïques, puisque bien sûr, elles étaient lésées, il y avait une concurrence inégale. Elle dénonce ce privilège avec véhémence, mais aussi humour, dans un passage de son premier livre. Elle dit « Une gardeuse de bétail, ne sachant pas lire, venait nous prier, nous, enfants de 8 ans, de lui apprendre son catéchisme. Elle partit pour le couvent, et je ne pus revenir de mon admiration quand, l'année suivante, je vis mon ancienne élève métamorphosée en chère belle-sœur, nous traitant en protégée et se préparant à aller, par privilège d'obédience, instruire les nations. Décidément, l'Esprit-Saint avait passé là. » Donc elle dénonce le fait, bien sûr, que ces enseignantes n'aient aucune capacité à enseigner. Et ça pose un problème d'autant plus grave que 56% des filles sont instruites par les religieuses à ce moment-là, contre à peu près un quart pour les garçons. C'est un cercle vicieux, puisque les filles sont mal instruites, donc après ça pose un problème de formation. Donc voilà pour la situation du primaire. En ce qui concerne le secondaire, c'est pire encore, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose. On peut dire qu'il y a en 1867 l'initiative de Victor Duruy qui crée des cours secondaires pour jeunes filles. Mais cette initiative est éphémère. Et de plus, c'est essentiellement pour les jeunes bourgeoises, puisque c'est un enseignement qui n'a pas de finalité professionnelle. Et en plus, il ne comporte pas d'humanité. Et les humanités, on le sait, sont très importantes au XIXe siècle pour tous les examens. J'y reviendrai après. En 1880, il y a la loi Camisset, et c'est cette loi qui crée officiellement l'enseignement secondaire. Donc avant 1880, il n'y a aucune initiative de l'État, et donc l'enseignement est religieux et donc payant. De toute façon, même après 1880, on peut dire que l'enseignement secondaire féminin n'a rien à voir avec l'enseignement masculin, puisqu'il n'y a pas d'humanité ni de mathématiques. Or, ces matières-là sont indispensables donc, pour passer les examens et avoir des diplômes. Il y a toujours cette entrave. En plus de toute cette ségrégation sexuelle, on peut parler de ségrégation sexuelle au niveau de l'enseignement, il y avait une ségrégation sociale, puisqu'au XIXe siècle, il n'y a pas du tout l'idée d'une promotion sociale de père à fils, et encore moins de père-mère à fille. Face à cette situation, Julie-Victoire Daubier, qui est femme, bien sûr, et issue d'un milieu modeste, a dû faire preuve de beaucoup de ténacité pour y arriver. Sa scolarité, elle passe son brevet supérieur de capacité le 31 août 1844. C'était un diplôme d'un bon niveau, mais enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'était déjà bien. Et surtout, elle fit l'apprentissage du latin et du grec grâce à son frère, qui était un ecclésiastique, Joseph Florentin Daubier. C'est lui qui donc lui a appris le latin et le grec, indispensable pour passer le baccalauréat. Donc elle avait fait face au problème des connaissances, mais il resta à lui faire reconnaître le droit de passer les examens, de se présenter au baccalauréat. Elle chercha à se présenter à Paris, elle fut refusée, à Aix également. Finalement, c'est à Lyon qu'elle réussit à se présenter au baccalauréat. Alors c'est pas un hasard, puisque à Lyon, elle bénéficiait de l'appui d'Arlès Dufour. Arlès Dufour, qui est un saint-simonien. Sur le saint-simonisme, ce que je peux vous dire par rapport au féminisme, en tout cas, enfin, par rapport à Julie-Victoire Daubier, c'est que les saint-simoniens ont repensé la société. Ils voyaient beaucoup la régénération de la société par sa moralisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Julie-Victoire Daubier. Et Julie-Victoire Daubier pense surtout la moralisation de la société comme la moralisation de l'homme, quoi. On peut mettre en parallèle le féminisme de Julie-Victoire Daubier et le saint-simonisme à travers toute cette pensée sur la société, la famille aussi qui est énormément pensée par les saint-simoniens, puisqu'il y aura aussi le phalanstère de Fourier, toutes ces choses-là. Je reparlerai un petit peu de toute cette moralisation, enfin c'est quelque chose de très important chez Julie-Victoire Daubier, j'en reparlerai après. Donc c'est à Lyon qu'elle se présente, grâce à l'appui d'Arlès Dufour, qui est un de ses amis, et qui la soutient vraiment pendant toute sa carrière. Il est là, on le rencontre très souvent, donc au moment du baccalauréat, au moment de la publication de son premier livre, puisqu'il est publié dans une édition saint-simonienne. C'est lui qui finance un journal auquel participe Julie-Victoire Daubier, un journal féministe très important du XIXe siècle. C'est Le droit des femmes, qui prend après la commune le nom de l'avenir des femmes. Donc c'est quelqu'un de très important, donc un saint-simonien et féministe. Et Julie-Victoire Daubier est aussi connue à Lyon, puisqu'elle avait participé en 1859 à un concours d'où sortira la femme pauvre au XIXe siècle. J'en reparlerai après. Pour preuve du caractère exceptionnel et courageux de la démarche de Julie-Victoire Daubier, donc de passer le baccalauréat, je vais vous lire un extrait de la lettre que lui envoya le secrétaire de la faculté des lettres de Lyon. C'est l'ouvrage de Raymond Bulger qui a réédité toutes les lettres que Julie-Victoire Daubier a reçues de personnalités très diverses. C'est Victor Hugo, des féministes, enfin il y a beaucoup de gens. C'est un ouvrage qui a été édité aux États-Unis, mais il est en français. L'extrait de la lettre, j'y viens. Il lui dit « Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous faire savoir que vous avez à choisir entre le 13 et le 16 août pour le premier jour de votre examen du baccalauréat S-Lettres. Si vous désirez éviter une trop grande affluence de curieux, vous feriez bien de choisir le 13 au lieu du 16 et de le laisser ignorer autant que possible. » Un autre témoignage sur... C'est Roger Henri Guéron qui, dans un livre dans lequel il traite de tout ce qui est sexualité autour de la jeunesse au XIXe siècle, et il parle de la première bachelière de France, donc, et il dit « La première fille qui a passé le baccalauréat sous le Second Empire a dû soutenir les épreuves entourées de 4 gardes municipaux parce que les garçons voulaient lui faire subir un certain sort un peu machiste. » Il cite pas ses sources. Et moi, j'ai pas trouvé du tout la même chose, puisque moi, j'ai au contraire trouvé des témoignages disant que les étudiants lyonnais, quand elle a réussi son bac, lui ont offert une médaille d'or avec ses initiales et la date de son baccalauréat. Donc, ça veut pas dire touche à HLM. Donc, le 16 août, elle passe donc les épreuves. Et elle est reçue avec la mention passable. Il y a beaucoup de journaux féministes qui, après, ont écrit des articles en disant qu'elle avait été reçue brillamment, etc. C'est pas vrai. Elle a été reçue avec la mention passable, c'est déjà très bien. Enfin, je crois qu'il faut pas faire de Julie Victoire d'Aubier quelqu'un d'exceptionnel, enfin, au niveau des capacités intellectuelles. C'est quelqu'un qui a été exceptionnel dans le sens où elle a eu le culot de faire ce qu'elle a fait. Mais sinon, c'était une femme comme les autres, et toute femme peut avoir le baccalauréat. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, elle passe ses épreuves le 16 août 1861. Mais c'est seulement en mars 1862 qu'elle a réussi à avoir son diplôme en main, puisque le ministère refusait de lui donner. Et il a fallu... Il y a l'impératrice Eugénie qui a provoqué un conseil des ministres pour ça. Et le ministre de l'Instruction publique, qui était alors Monsieur Roulant, a dit « Vous voulez ridiculiser mon ministère ?» Alors, un contemporain de Julie Victoire d'Aubier, Léon Richert, qui était un féministe qui a participé au journal féministe dont j'ai parlé tout à l'heure, Le droit des femmes, affirmait une dizaine d'années après ce baccalauréat, donc, la routine était vaincue, une porte était forcée, et par cette porte ont passé depuis un nombre respectable de brillants sujets féminins. Au moment où il affirme ça, c'est quelque peu optimiste, puisque jusqu'à la fin du siècle, elles sont à peu près 4 à 5 bachelières par an. C'est une moyenne. Le bac est vraiment loin d'être banalisé pour une femme. Souvent, dans le journal féministe dont j'ai déjà parlé, Le droit des femmes, ils parlent de femmes se présentant à des examens, mais ils disent qu'elles préfèrent garder l'anonymat. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est loin d'être banalisé. De plus, les baccalauréats féminins et masculins ne seront équivalents qu'en 1924, puisque c'est à cette date, il y a un décret, donc le 25 mars 1924, qui proclame l'identité des programmes, et donc à ce moment-là l'identité des baccalauréats. Avant cette date, il y a 2 baccalauréats, et bien sûr le baccalauréat féminin est jugé de moindre valeur. En outre, les facultés n'ouvrent leurs portes que très tardivement aux femmes, puisque la faculté des sciences à Paris n'accepte les femmes qu'en 1874 et celle de lettres en 1880. Donc Julie Victoire d'Aubier, qui a passé sa licence en 1871, en octobre 1871, l'a préparée seule, puisqu'elle a obtenu l'autorisation de s'inscrire en faculté, mais pas l'autorisation de suivre les cours. En gros, on leur dit « Vous passez les examens si vous voulez, mais débrouillez-vous ». Julie Victoire d'Aubier ironise d'ailleurs à ce sujet dans L'avenir des femmes du 7 avril 1872. Elle dit « Les femmes qui, pour leurs examens en 1872, ont à prendre des inscriptions à la faculté des sciences ou à celle des lettres, doivent être officiellement exemptées de suivre les cours d'où elles sont officiellement exclues. » Donc on voit que l'accès à l'enseignement supérieur est très difficile aussi. Et les titulaires d'un grade supérieur au baccalauréat sont très peu nombreuses par rapport au nombre déjà faible des bachelières. Donc Julie Victoire d'Aubier, je vous l'ai dit, obtient sa licence en 1871. C'est la première licenciée en lettres, donc en 1871. Et elle ne sera suivie qu'en 1892, à savoir que la deuxième licenciée S-Lettres arrive 21 ans plus tard. Et Emma Chenu, qui, elle, est la première licenciée en sciences, en 1868, ne sera suivie qu'en 1876. On voit que c'est très difficile. Peu de diplômés encore au XIXe siècle. De plus, celles qui sont diplômées rencontrent de nombreux problèmes pour pouvoir tirer bénéfice de leur diplôme au niveau professionnel. Alors, je vais vous citer deux exemples. Il y a celui de Mademoiselle Chauvin, qui est docteur en droit en 1892. En 1897, elle fait une demande pour exercer au barreau de Paris. Et c'est seulement en 1900, c'est-à-dire 3 ans après, qu'elle obtient satisfaction. Et ça a été vraiment une campagne très dure. Il y a le journal La Fronde, qui a été créé par Marguerite Durand, qui a mené une campagne très virulente pour ça. Le deuxième exemple, c'est celui de Blanche Edwards, exemple qui fait frémir, puisque c'est la première femme interne des hôpitaux de France et qu'elle fut brûlée en effigie par les étudiants en signe de protestation. Ce deuxième exemple prouve que les femmes passant des diplômes, c'est vraiment loin d'être courant, et surtout, il y a un refus qu'elles en tirent bénéfice au niveau professionnel. D'autant plus quand c'est des professions élevées. Bien sûr, ça pose un problème puisque le but premier de Julie-Victoire Daubier était social. Ses revendications pour l'égalité dans l'enseignement ont un but professionnel. Ce qu'elle veut, c'est élargir les perspectives professionnelles des femmes et obtenir l'égalité dans le domaine du travail avec les hommes. Égalité, c'est-à-dire même chance de promotion, même chance de faire carrière et bien sûr, à travail égal, salaire égal. Pour revendiquer cette égalité dans l'enseignement, elle utilise un argument qu'elle reprendra pour le vote et qu'elle exprime dans ce texte. Je lis dans La femme pauvre au XIXe siècle. « La femme ayant droit à l'instruction, le devoir de la société est de l'instruire selon ses aptitudes. Dès que le but de toute science est d'exposer des vérités, un mode d'enseignement qui ne pourrait s'appliquer aux deux sexes serait mauvais par la même. L'instruction de l'épouse ne peut donc être inférieure à celle de l'époux. » Celle de la mère à celle du fils, celle de la sœur à celle du frère. Leurs mœurs surtout ne sauraient être différentes, sans que l'état social et l'esprit de famille en ressentent de profondes atteintes. À côté des avantages sociaux de cette éducation commune se placent les droits personnels de la femme. Contribuable au même titre que l'homme, c'est cet argument qu'elle reprendra après, à savoir la femme paye des impôts comme l'homme, il n'y a aucune raison qu'elle ait droit à moins de choses que lui. Elle a les mêmes devoirs, elle doit avoir les mêmes droits. Donc je continue, contribuable au même titre que l'homme, elle doit trouver la même sécurité et la même initiative que lui pour les carrières professionnelles. Si les municipalités et l'État n'offraient pas les mêmes moyens de développement aux filles et aux garçons, l'exclusion des premières appellerait un dégrèvement de l'impôt direct et indirect pour les filles majeures, les veuves, comme pour les pères qui n'ont que des filles, avec surtaxe pour ceux qui ont un nombre prépondérant de fils. Donc, de cet accès à la même instruction qu'elle revendique fortement, naîtra, elle n'en doute pas du tout, l'égalité devant le travail. Je vais vous lire encore un texte que j'ai tiré là de son dernier ouvrage qui s'appelle « L'émancipation de la femme en 10 livraisons ». C'est un ouvrage dans lequel elle a surtout parlé des droits politiques de la femme. Mais bon, là, c'est pas le cas, elle parle du travail. Et elle dit « Du développement normal des facultés de l'individu par l'initiative sociale dans les emplois ouverts ou à ouvrir aux femmes, de l'identité de leurs diplômes pour l'enseignement professionnel primaire, secondaire et supérieur dans les postes, les télégraphes, l'enregistrement, etc., nous arrivons logiquement à déduire l'égalité complète des salaires et des droits à la retraite, à l'avancement hiérarchique, sans aucune acceptation de sexe pour tous les emplois qui relèvent de l'État. » Et elle précise après qu'elle ne mentionne que les emplois publics, car pour le reste, elle pense que la concurrence, une fois que les femmes auront les mêmes diplômes que les hommes, elle pense que la concurrence se fera sainement. Ça faisait peut-être un peu des illusions, mais bon. Donc, alors, Julie-Victoire Daubier a beaucoup écrit, donc je vous ai cité « Du progrès dans l'enseignement primaire » en 1862, ouvrage dans lequel elle traite surtout de l'enseignement, comme son nom l'indique. En 1871-72, donc, il y a l'émancipation de la femme en 10 livraisons, qui est un ouvrage politique essentiellement. Elle a beaucoup écrit dans les journaux, notamment dans des journaux économistes, le journal des économistes et l'économique français. Elle n'a pas seulement écrit dans des journaux féministes. Son travail était tout à fait reconnu pour les conclusions économiques qu'elle en tirait, etc. Donc, elle a écrit également dans Le droit des femmes et L'avenir des femmes, qui est le même journal qui change de nom. Et surtout, il y a bien sûr La femme pauvre au XIXe siècle. Alors, la première édition date de 1866. La première édition comprenait 2 tomes. Le premier, c'était Conditions économiques, et le deuxième, Conditions professionnelles de la femme. Et l'édition complète en 3 tomes date de 1869. Vient s'y greffer donc le 2e tome. qui est La condition morale de la femme. Donc c'est un livre essentiel car il développe toutes ses revendications. Et donc il est né d'un concours, celui de l'Académie impériale de Lyon. Je vais vous lire l'avant-propos de la première édition. Quand l'Académie de Lyon chercha à améliorer la condition sociale des femmes, l'honorable rapporteur de la commission du concours s'exprima ainsi. Il y a 18 siècles que le christianisme a proclamé l'égalité de l'homme et de la femme. Et cependant, presque partout, les lois civiles et religieuses consacrent encore leur inégalité. Malgré les progrès de la civilisation et l'adoucissement des mœurs, on ne se fait aucun scrupule de traiter de nos jours la femme comme si elle était naturellement l'inférieure de l'homme et de rétribuer ses services et son travail en conséquence de cette infériorité. Ainsi, les institutrices, les directrices d'asile, des écoles, des bureaux de poste et les filles de magasins, etc., sont moitié moins rétribuées que les hommes remplissant des fonctions analogues ou exécutant les mêmes travaux. Il semble même que les rapides développements de la civilisation, loin d'améliorer cette triste condition des femmes, ne fassent que l'aggraver en les excluant chaque jour de fonctions et travaux qui autrefois leur étaient propres. De cette position inférieure et de plus en plus précaire, si contraire à la justice et à la dignité humaine, il résulte une foule de maux et de désordres physiques et moraux qui deviennent partout de plus en plus manifestes, mais qui sont surtout affligeants dans les grands centres industriels comme l'agglomération lyonnaise. Il appartenait donc à l'Académie de Lyon d'appeler l'attention et l'étude sur cette grave et triste question. En conséquence, j'ai l'honneur de lui proposer comme sujet d'un prix à décerner aux meilleures mémoires la question suivante. Étudier, rechercher, surtout au point de vue moral, et indiquer aux gouvernants, aux administrateurs, aux chefs d'industrie et aux particuliers quels seraient les meilleurs moyens, les mesures les plus pratiques. Premièrement, pour élever le salaire des femmes à l'égard de celui des hommes lorsqu'il y a égalité de service ou de travail. Deuxièmement, pour ouvrir aux femmes de nouvelles carrières et leur procurer des travaux qui remplacent ceux qui leur sont successivement enlevés par la concurrence des hommes et par la transformation des usages ou des mœurs. Alors ce texte est très intéressant, enfin, on peut y voir plusieurs choses. Tout d'abord, il parle beaucoup de l'industrialisation, le modernisme ne va pas forcément avec des progrès pour la femme. Il y a les conséquences de la révolution industrielle ont parfois été très dures au niveau social, au niveau humain, mais surtout pour les femmes et pour les enfants, parce que les femmes travaillent depuis longtemps, depuis toujours, mais avec la révolution industrielle, leurs conditions de travail sont devenues désastreuses. On peut remarquer aussi que l'énoncé du sujet lui-même est féministe. Le but qu'il se propose, c'est de trouver les moyens d'obtenir qu'à travail égal, les femmes aient le même salaire que les hommes. Et ce féminisme est pas du tout évident, quoi. Le rapporteur, j'ai oublié de le dire, c'est Arlès Dufour, hein, on le retrouve encore là. Donc, à travail égal, salaire égal, c'était vraiment quelque chose à revendiquer au 19e siècle, puisque je vais vous donner des chiffres. En 1873, le salaire moyen industriel des femmes était de 43% du salaire masculin, donc c'est-à-dire moins de la moitié. En 1911, ce n'est encore que de 47%. Donc, bien sûr, ça fait partie des revendications féministes. Pas seulement féministe, hein, d'ailleurs, parce que c'était une telle aberration que, par exemple, Jules Simon, dans L'Ouvrière, revendique aussi ce genre de choses, quoi. Alors, ce sous-paiement était légitimé par plusieurs choses. Tout d'abord, la sous-qualification des femmes, parce que ça, c'était une réalité. C'est bien pour ça que Julie-Victor Daubier demande l'égalité d'instruction. Et également par l'essence même de la femme. On jugeait que la femme était avant tout épouse, enfin destinée à être épouse. Donc c'est toute la notion de salaire d'appoint. On juge également que la femme, en tant qu'épouse, n'a qu'un salaire d'appoint à apporter. Et on juge également qu'elle a des besoins moindres que l'homme. Or, bien sûr, de n'envisager la femme que comme épouse, ça pose des problèmes. D'autant plus qu'au 19e siècle, les femmes seules sont très nombreuses. Alors j'ai trouvé des chiffres, un historien, M. Bourdelet, qui affirme dans un livre sur la solitude féminine qu'en 1851, 12% de femmes sont célibataires et 34% sont veuves, ce qui nous fait un total de 46% de femmes seules. Or, Julie-Victoire Daubier se bat pour la femme pauvre. Et par femme pauvre, elle n'entend pas l'indigente, mais celle qui doit travailler pour vivre. Celle qui doit travailler pour vivre se confond très souvent avec la femme seule. On peut dire que Julie-Victoire Daubier, c'est comme ça que je l'avais définie dans mon travail universitaire, est la féministe des femmes seules. Elle se bat surtout pour celles qui doivent travailler. Elle se bat pour celles qui ont droit au vote au même titre que les hommes. Alors, je vais développer un peu. Elle n'exclut pas les femmes mariées du droit de vote, mais elle juge que s'il y a certains arguments qui peuvent être opposés au vote des femmes mariées, comme le fait qu'elles ne payent pas l'impôt, puisqu'elles sont, c'est le mari qui les paye, on juge qu'elles sont en dépendance par rapport au mari, ce genre de choses. Donc ces arguments peuvent être opposés au vote des femmes mariées. En revanche, pour les femmes seules, les femmes majeures, comme on disait, rien ne peut être opposé, puisqu'elles payent l'impôt comme les autres, etc., etc. Donc elle se bat aussi pour celles qui sont abandonnées des hommes. Et elle tient tout un discours sur la séduction. Pardon, je vais en reparler tout de suite, puisque j'enchaîne sur le moralisme de Julie-Victoire Daubier. Le 19e siècle est très moraliste, et surtout quand on parle des femmes. Tout à l'heure, en lisant l'avant-propos, j'ai insisté quand, dans le sujet, ils disent « étudier les moyens, surtout au point de vue moral ». Bon, déjà, c'est assez révélateur, ça, du 19e siècle. Le moralisme est très fréquent dans les écrits féministes du 19e siècle, puisque la femme y est toujours définie soit comme épouse, soit comme mère. Par exemple, beaucoup revendiquent, Julie-Victoire Daubier aussi d'ailleurs, l'instruction en disant que la femme est mère et que donc son instruction bénéficiera à ses enfants, des choses comme ça. Et le moralisme est omniprésent chez Julie-Victoire Daubier. Enfin, vraiment, on le retrouve partout. Politique, économie, moralisme sont vraiment très liés. Par exemple, elle juge que l'enseignement est créateur de moralité. Elle fait un parallèle entre illettrisme et criminalité. Elle lie également économie et moralité, enfin, en disant que la situation professionnelle de la femme, à savoir qu'elle est sous-payée, etc., nécessite la moralisation de l'homme. Il ne doit pas laisser la femme seule après l'avoir séduite, sinon elle se retrouve dans la misère, car le salaire des femmes est insuffisant pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, d'autant plus insuffisant quand il la laisse seule avec des enfants. Donc bien sûr, il y a une contradiction ici, puisque Julie-Victoire Daubier revendique un peu un devoir de protection de l'homme sur la femme, et en même temps elle revendique un salaire égal à l'homme en dénonçant le salaire d'appoint, ce qui bien sûr est une contradiction. Elle lie également politique et moralité. Un de ses arguments pour réclamer le vote des femmes, c'est de dire que ça moralisera le pouvoir, que ça permettra d'étudier les problèmes sociaux avec plus de cœur, avec plus d'humanité, etc.
C'est vers 1830 que l'horreur du mariage commença à se manifester en France, avec les mœurs nées des lois et des mesures administratives qui cherchent à le rendre inutile. Ces causes sont sensibles surtout dans le département de la Seine. Quoiqu'il soit un des plus riches, un de ceux qui offrent les salaires les plus élevés, on s'y marie beaucoup moins qu'en province. Pourtant là aussi, le mal a acquis de telles proportions qu'on y voit des centaines de jeunes filles former une loterie dont le numéro gagnant est un mari. Toutefois, dira-t-on, on se marie plus ou moins. « Oui, répondrai-je, et souvent encore vaudrait-il mieux qu'on ne se mariât pas du tout. On se marie par cupidité d'argent, par économie ou par convenance de position, et ces unions où des êtres qui n'ont ni idée ni sentiment commun s'attachent le pied au même boulet ne sont qu'une forme légale de la débauche, à laquelle elle n'impose aucun frein. La loi familiale dépend donc des mœurs et de l'éducation qui font préférer à l'homme et à la femme l'union régulière à l'union irrégulière et des notions qui se forment l'un et l'autre du devoir. Mais comme le faux prévaut ici au point qu'une atteinte à la justice n'est pas appréciée de même selon qu'elle est commise par l'homme ou par la femme, les habitudes des adolescents et des adolescentes, leurs relations seront toutes différentes et l'antagonisme social minant la famille, divisera les époux au sein du foyer domestique, surtout lorsqu'ils auront contracté le mariage comme une bonne affaire commerciale.
C'est ainsi que nos viveurs qui courent la dot à 40 et à 50 ans, comme ils couraient la séduction à 20 et à 30, forment des associations où ils s'engagent à renoncer au mariage s'ils ne rencontrent une dot d'un minimum de 40 000 livres de rente. On déclare vouloir épouser 1 million, 2 millions, sans en rien rabattre. On suppute les espérances qui sont les chances de mort pour les ascendants de la future. On regrette d'être contraint d'épouser la femme avec la dot, etc. Nommer franchement indemnité de ce contrat matrimonial qui prétend imposer des devoirs d'humanité envers ses propres enfants. On se marie aussi par contrainte. Je coupe. On sait ce que deviennent ces unions indissolubles dont le noviciat a été la promiscuité pour l'homme et l'ascétisme pour la femme. Les promis se sont vus rarement, à distance, sous l'œil d'une mère inquiète. Le fiancé a perdu le sentiment de la dignité humaine au point de se vanter d'avoir égalé le nombre de ses maîtresses à celui des grains du chapelet de sa fiancée. Loin d'être regardé comme un protecteur franc et loyal, il est considéré par ses parents adoptifs comme un homme faux et pervers, propre à s'affranchir de tout devoir et à tromper celle qu'il va recevoir des mains de la religion et de la loi pour compagne éternelle des jours bons et mauvais. Les voilà pourtant unis, ces êtres qui n'ont ni habitude, ni idée, ni travaux, ni goût commun. Chacun faisant de ses caprices la règle du juste et de l'injuste, l'idée du devoir est de même exclue de l'éducation de la jeune fille. Son mari a eu, il a et il aura des faux ménages. Elle accepte à la condition unique que ses enfants posséderont les droits à l'héritage et que ceux des autres n'auront pas même droit aux aliments. Ses vues sur la vérité sociale sont du reste si conformes à celles de la loi que si cette femme n'est pas législatrice, nous pouvons tout au moins la soupçonner fille du législateur de la famille. Ses mœurs, ne donnant l'indépendance qu'à l'argent, font souvent aussi dominer l'homme pauvre par la femme riche. La fille de l'épicier opulent épouse des blasons, des dignités sociales. Elle sait qu'un mari sans fortune n'aura pas l'imprudence de divorcer avec une dot. Dans son ton, son attitude, son entourage, dont ce mari n'est que le premier valet, on compte aussi facilement 2, 3, 4 et 500 000 francs de dot qu'on lit les variations atmosphériques sur le thermomètre. Imposant même son inconduite, comme dans la France du siècle dernier, comme au temps de la décadence de la Grèce et de Rome, elle reproduira l'éternel spectacle des sociétés corrompues qui donnent droit d'oppression à la richesse sur la pauvreté, dans les rapports des sexes surtout. Ainsi, notre contrat familial, qui n'étant basé sur aucun droit naturel, prétend s'appuyer sur je ne sais quel droit légal, mystique ou divin, pour se définir droit réciproque de duplicité du malhonnête homme à l'honnête femme et de la malhonnête femme à l'honnête homme. Quels remèdes sont opposés à une pareille plaie sociale? Le palliatif impuissant, immoral de la séparation qui foule aux pieds la justice, opprime l'enfant, permet le mal et défend le bien en multipliant les unions adultérines. Donc après, elle enchaîne sur les problèmes que ça pose à la maternité, à savoir que les couples qui divorcent, etc., la femme se retrouve dans une situation difficile. C'est donc le lien entre économie et moralité dont je parlais tout à l'heure, à savoir que la famille est complètement désorganisée et que l'homme fuit ses responsabilités morales et économiques. Enfin, économiques dans le sens où la femme se retrouve dans la misère. Donc, l'amélioration de la situation économique de la femme passe, pour Julie-Victoire Daubier, par l'égalité d'accès à l'enseignement, l'égalité dans le monde du travail, mais aussi donc par une révolution morale, que c'est le terme qu'elle emploie, dans la société, c'est-à-dire surtout une moralisation et une responsabilisation de l'homme. Donc après l'enseignement et l'égalité dans le travail, c'est son deuxième grand thème de revendication que la moralisation de la société. Quand elle parle d'immoralité de la société, en fait c'est de l'immoralité masculine qu'elle parle, puisque dans société, enfin société c'est sous-entendu société masculine, hein, et c'est toujours l'homme qu'elle dénonce, on va le voir. Alors dans ce thème, elle aborde notamment la question de la domesticité, et c'est l'occasion pour elle de dénoncer la double morale, une morale pour l'homme et une pour la femme. Et là, dans le cas de la domesticité, même deux doubles morales, parce qu'il y a une pour l'homme, une pour la femme, et en plus une morale différente selon la classe sociale. Et donc là, on a le maître face à la domestique. Alors là, je vous lis le texte. Mais que dire de la servante accablée par la débauche souveraine? Dans leur ironique profanation de ce beau nom de liberté, ils t'ont pris, ô femme, ta jeunesse, ta santé, tes veilles, et, hélas, souvent ta vertu en échange du pain d'aujourd'hui. Demain, ils te rejetteront épuisée, malade, dénuée, flétrie. Ils te pousseront du pied dans la rue en te disant « Tu es libre. Ta liberté, tu le verras bientôt, consiste uniquement dans la privation des miettes » qui, après ton travail, tombait pour toi chaque jour de la table de ces mauvais riches. Il faut donc examiner cette égalité, entre guillemets, cette liberté, toujours entre guillemets, mensongère, qui cause si souvent la dégradation de la servante. En vertu de la liberté et de l'égalité de tous les Français devant la loi, un maître peut renvoyer à tort ou à raison une servante. La sécurité du foyer serait même blessée par des atteintes à ce droit. Mais de quelque côté que soit la justice, le résultat est semblable. Une cause jugée dans l'ombre par la partie intéressée a jeté dans la rue un être sans domicile, sans appui, sans ressources, pendant que les maîtres, quittés trop brusquement, sont au pis-aller, réduits à se suffire quelques jours au milieu de l'abondance. Si l'égalité civile du maître et de la servante est souvent fictive, qu'en dire au point de vue de la justice morale et sociale ? Ici, notre code nous place devant des iniquités qui n'ont de précédent que dans l'histoire de l'esclavage. Droit illimité d'oppression pour le maître sur la maternité et l'enfance. Aussi, nos servantes, séduites, sont-elles réduites à accoucher dans les rues, à séjourner dans des caves où elles meurent de faim et de froid avec leurs enfants, ou à s'enrôler au bureau des mœurs. Cette omnipotence de la débauche s'exerce même sur des filles de 15 ans. En février 1866, une dame au retour du bal aperçut à 5 heures du matin dans une rue de Paris une jeune fille malade avec une petite fille sur les bras. Elle fit une aumône à cette servante de 15 ans qui, après avoir été séduite et chassée, s'était réfugiée dans un misérable garni d'où on venait de l'expulser comme insolvable. La nourriture ranima la mère, mais l'enfant était morte de faim. Une de ses servantes, séduite et chassée par son maître, après avoir épuisé son petit pécule, se trouva sans abri. À peine remise d'une couche laborieuse, elle errait dans Paris, ne sachant à quoi se résoudre. Un jour, elle rencontra son séducteur sur le pont Neuf. « J'ai pu, lui dit-elle, faire admettre votre fils aux enfants trouvés. Je vous demande seulement avec instance le certificat nécessaire pour me placer ailleurs, car je suis refusée partout faute de répondant. » « Je ne puis vous donner cette attestation, reprit le citoyen intègre, ignorant quel lieu et quels gens vous avez fréquentés depuis votre départ de ma maison. Je ne saurais engager ma conscience à ce point. » Dans une autre famille, dont le fils avait séduit la servante renvoyée pendant sa grossesse, la mère disait « Je regrette cette fille qui m'était fort commode et empêchait mon fils de fréquenter de mauvais lieux. » Le cynisme des maîtres qui séduisent et chassent leurs servantes pousse celles-ci au suicide. L'une d'elles vivait avec un maître qui, ayant promis de l'épouser, lui donna son congé le jour où elle déclara sa grossesse. Saisie d'un violent désespoir qu'elle confia à une amie, elle se pendit dans la maison du parjure. La justice, appelée sur les lieux, fit son enquête et constata une mort volontaire. Si cet homme avait froidement immolé sa victime, la société lui en eût demandé compte. Était-il donc innocent, celui qui tua indirectement cette femme, contrainte de chercher dans la mort un refuge contre la honte et la misère, celui que notre loi civile déchargeait de tout devoir envers son enfant ? C'est un thème très fréquent dans beaucoup d'écrits du XIXe siècle que celui de la servante prise derrière les portes. Elle dénonce énormément le fait de l'interdiction de la recherche de la paternité. Et plus globalement, elle dénonce l'attitude de l'homme face à la femme et aux enfants. Elle dénonce l'invasion de l'argent dans les questions familiales. Et surtout, ce qu'elle dénonce, c'est que la femme et les enfants sont à la merci de l'homme, dont elle dénonce donc l'immoralité et l'irresponsabilité. Et l'homme est appuyé par ça, par la loi, puisque la loi interdit la recherche de la paternité, ce genre de choses. Tout ça, elle le développe surtout dans le deuxième tome de La femme pauvre au XIXe siècle. Deuxième tome qui est énormément consacré, enfin essentiellement, aux enfants. Puisqu'en fait, elle dénonce toutes les conséquences de cette immoralité masculine sur les enfants. Ça donne des enfants adultérins, nés d'inceste, orphelins, abandonnés, etc., etc. Autre thème important dans cette deuxième campagne, c'est celui de la prostitution. C'est la première féministe à militer en France contre la prostitution réglementée. Elle est d'ailleurs reconnue pour ça en Angleterre, où son livre a été traduit par Joséphine Butler, qui est très connue pour sa lutte contre la prostitution. Elle a même eu une correspondance avec Joséphine Butler. De cette lutte contre la prostitution, là encore, c'est la femme qui est victime. Elle dit que la prostitution est très souvent la conséquence de la misère. Elle dit « Si la femme subit trop souvent le vice, l'homme le choisit toujours. » Vraiment, elle est très très virulente dans cette dénonciation-là, puisqu'elle dit que vraiment c'est un système très honteux que ce système de la prostitution réglementée, puisque c'est synonyme de tracasserie sans fin pour la femme, alors que l'homme, lui, il est protégé dans son honneur. Tout ça reste clos dans la maison close, et il est protégé dans son physique aussi, puisqu'on vérifie bien que toutes les filles sont saines, etc. Et elle dénonce bien sûr aussi le fait... Au 19e siècle, on disait, enfin d'ailleurs c'est à l'origine de la prostitution réglementée, que la prostitution était un besoin social. Donc le 4 juin 1869, elle envoie une pétition au Sénat. Et je vais passer donc à sa dernière campagne, hein, la troisième et dernière campagne, donc après l'enseignement et la campagne pour la moralité, c'est une campagne pour les droits politiques. Alors là, Julie Victoire d'Aubier fait encore figure de pionnière, puisque... C'est à partir de 1870 surtout qu'elle commence à militer pour les droits politiques. Et à cette époque-là, les féministes ne militent pas du tout pour ça, quoi. Elle est vraiment la seule. Il y a eu 1848 où on a beaucoup milité pour ça, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est vraiment la première à reprendre le flambeau. Et elle est encouragée par ça, par les succès étrangers, puisque les Anglaises ont obtenu le vote municipal censitaire en 1869. Et la même année, les Américaines obtiennent le droit de vote dans l'État du Wyoming, en 1870 dans l'Utah. Encouragée aussi, bien sûr, par les événements français, puisqu'il y a la proclamation de la République le 4 septembre. Et donc, le 20 septembre 1870, elle demande son inscription sur les registres électoraux du 8e arrondissement, puisqu'elle habitait à Paris à ce moment-là. Et son argument essentiel, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que les femmes payent l'impôt comme les hommes. Elle insiste aussi sur le fait que les femmes ont souffert comme les hommes pendant la guerre, une guerre qui vient d'avoir lieu, on est en 70. Hein. Et c'est intéressant parce que c'est un argument qui sera repris en 45. Enfin, c'est une des raisons qui a fait que le droit de vote a été accordé aux femmes en 45.
La revendication du suffrage des femmes. L'extension du droit de suffrage pour les hommes, la forme démocratique des gouvernements, les principes même de la liberté moderne appellent l'attention publique sur la participation des femmes au vote. Aussi, cette question est-elle déjà résolue dans plusieurs parties de l'ancien monde et du nouveau. Dans la France libre de 89, Condorcet et Seyès revendiquaient énergiquement le droit de cité pour les femmes. Lorsque le Premier Empire et la domination oligarchique du suffrage restreint étouffèrent les aspirations libérales des hommes de progrès. Quand le peuple conquit l'exercice du vote en 1848, les esprits méditatifs comprirent que l'exclusion d'une moitié de l'humanité, classée a priori en l'imbécilité du sexe, parmi les interdits pour crimes et délits, est une injure gratuite pour les femmes, égale à l'homme comme français, devant l'impôt direct et indirect, ainsi que devant le code pénal, et qu'il est ironique de déclarer universel un suffrage qui les repousse à titre de mineurs privés de discernement. La revendication de leurs droits ne peut être entravée de nouveau que par l'arbitraire d'un gouvernement qui, en déclarant irresponsables les fonctionnaires publics, mit la volonté instable des hommes au-dessus des principes stables des lois. Aussi les femmes ajournèrent-elles leurs réclamations à un temps plus opportun. Ce n'est pas en vain pourtant que nous avons été une nation libre et libératrice. La théorie égalitaire inscrite dans notre code et dans nos constitutions...
Ce principe d'universalité, pardon.
...donne virtuellement le droit de suffrage aux veuves et aux filles majeures dans la France héritière des principes de 89. Nos codes, en effet, consacrent l'égalité de tous les Français. Nos constitutions diverses affirment qu'une souveraineté inaliénable et imprescriptible étant acquise à l'universalité des citoyens français, aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice exclusif. Que les Français jouissant de leurs droits civils peuvent chaque année, à partir de 21 ans, époque de leur majorité, se faire inscrire sur les registres électoraux au moment de leur révision, etc. Évidemment, la capacité électorale des veuves et des filles majeures, français, contribuables et justiciables de nos tribunaux, au même titre que l'homme, ressort de ces déclarations formelles. En outre, un principe de jurisprudence affirme permis tout ce que la loi ne défend point.
Ça c'est là-dessus qu'elle a insisté aussi quand elle a passé son bac, bien sûr. Oui. La loi n'interdit pas aux femmes de passer le bac.
Donc c'est permis.
Cet acquiescement a suffi pour faire respecter l'initiative des femmes qui ont demandé à subir des examens d'enseignement secondaire et supérieur, dont les hommes s'étaient de tout temps attribué le monopole. Quoi qu'il n'y ait pas de prescription contre le droit, les antagonistes de cette innovation pouvaient néanmoins invoquer alors en leur faveur une autorité mille fois séculaire qui leur fait ici complètement défaut. La logique est même tellement impitoyable que, si le droit de cité était contesté aux veuves et aux filles majeures qui le revendiquent, il faudrait, par des considérations semblables, leur interdire les examens d'enseignement secondaire et supérieur. Ces contribuables pourraient contester aussi l'obligation de payer l'impôt et d'obéir à des lois qui leur font supporter les charges de la vie civile sans les laisser jouir de ces avantages. Ces restrictions blessantes, cet antagonisme incompatible avec les règles de la justice distributive ne saurait être le fait d'aucun pouvoir responsable.
En gros, c'est les arguments qu'elle développe, donc celui de femmes qui ont les mêmes devoirs, impôts, bon, elles subissent la même justice que les hommes, etc., donc elles doivent avoir les mêmes droits. Donc elle joue beaucoup sur les mots aussi, puisqu'on voit dans ce texte qu'elle insiste bien sur les femmes sont contribuables comme les hommes, justiciables, corvéables à merci, etc. Mais en fait, c'est plus qu'un jeu sur les mots, puisque ça rentre dans toute une réflexion de Judith Victor Daubis sur les droits et les devoirs, donc. Et cette notion de droit et de devoir est très importante chez Judith Victor Daubis. Elle préfère rappeler aux hommes leurs devoirs par rapport aux femmes, aux enfants, plus généralement les devoirs de la société même, que de revendiquer les droits des femmes et des enfants. Donc bien sûr, c'est une façon plus diplomatique de revendiquer les choses. Ça donne un caractère modéré à son féminisme. Ça limite également son féminisme. C'est un devoir de protection des hommes envers les femmes et les enfants qu'elle affirme. Il y a certaines limites à son féminisme, limites qui sont liées essentiellement donc à son moralisme. On peut dire d'elle qu'elle est réformatrice et pas révolutionnaire. Elle ne repense pas toute la société, elle ne repense même pas à la place de la femme dans la société. Il ne faut pas réduire le poids de son action, il y a d'abord son bac. C'est aussi la première à reprendre la lutte pour les droits politiques. Et il y a aussi son livre, c'est un des premiers livres de cette envergure écrit par une femme sur les femmes. Donc il est le fruit vraiment d'un travail énorme. Il y a un journal, un article qui était paru au moment de ce livre, ou à sa mort, je sais plus, où il y avait un de ses amis qui racontait qu'elle avait vraiment une passion de l'enquête incroyable, et qu'un jour il était allé avec elle au théâtre et qu'elle était sortie pendant toute la deuxième partie du spectacle pour aller interviewer une ouvreuse sur sa condition de travail, de femme, etc. Donc c'est vrai, il y a vraiment un travail de recherche énorme. Et il y a aussi des solutions qui sont proposées, ce qui n'est pas toujours le cas dans les ouvrages sur la condition ouvrière. Il y a des choses comme de voir la solution des problèmes économiques de la femme dans une révolution morale, c'est un peu vague, quoi. Bon, bien sûr, elle précise après, heureusement. Elle propose, par exemple, de supprimer le budget de l'armée pour créer une université féminine. Alors, c'est certes très bien, mais enfin, je pense qu'il y avait assez peu de chances que ça se réalise. Voilà, j'ai fini. Thank you.